Alubumbashi, Fournement sans revenu. Vous savez que désormais, tous les jeudis, Radio Capi et la Benevolentia, qui est une ONG internationale, on va vous proposer une série d'émissions qui vont vous expliquer les origines des violences et des groupes ethniques. Dans ces émissions, nous dirons comment RDC et les Congolais, notamment les leaders ou citoyens ordinaires, s'arrangent pour prévenir les conflits et les traumatismes qui en découlent.
Et il faut noter, Nicole, que notre pays traverse des conflits à répétition, opposant des groupes depuis des décennies. Ces violences ne doivent pas laisser indifférents tous les Congolais qui doivent se questionner sur les origines de cette violence.
Raison pour laquelle la Bénédicte et ses experts ont fait des recherches en Afrique, mais aussi dans d'autres parties du monde, pour mieux comprendre les origines de la violence de masse. Ces chercheurs ont constaté que les éléments qui mènent les groupes à entrer dans de grands conflits sont universels et qui s'appliquent également au contexte congolais.
Oui, là, pour la première émission, Nicole, nous allons nous intéresser au cas du Katanga. Là, nous sommes en début des années 90. Le Katanga a connu une période sombre et selon les sources, entre 200 000 et 400 000 Congolais d'origine kassaïenne ont dû quitter la province en abandonnant tous leurs biens pour regagner le Kassai oriental et le Kassai occidental. Comment expliquer que deux communautés qui cohabitaient depuis des dizaines d'années en viennent à de telles extrémités? Ces communautés peuvent-elles vivre ensemble 10 ans plus tard et quels sont les signes de réconciliation, Nicole?
Alors, on va suivre le reportage qu'on nous propose justement ce sujet de la Chimbonde, afin de mieux comprendre cette réalité.
Les conflits entre les deux communautés éclatent au milieu d'un contexte de crise nationale. Économiquement d'abord, le cours mondial du cuivre est au plus bas au début des années 90. La gécamine, jadis poumon de l'économie katangaise et congolaise, connaît une forte crise dans le pays lui-même. Le Zaïre, à l'époque, est en forte récession. Les inégalités sociales sont de plus en plus visibles. Politiquement ensuite, le pouvoir du maréchal Mobutu s'effrite. Les mouvements de contestation affaiblissent de plus en plus l'organisation et les institutions de l'État. Toutes les conditions sont alors réunies pour favoriser une profonde crise identitaire. Le déclencheur est la nomination en 1992 de Tin Tshisekedi au poste de Premier ministre. Les Katangais vivent mal cette émergence et très vite, les discours d'opinion dénoncent ce que les Katangais considèrent comme des triomphalismes débordants des ressortissants du Kassai. La chasse commence. Plusieurs centaines de Kassaïens sont menacés verbalement et physiquement, avec pour objectif de les faire retourner au Kassai en abandonnant leurs biens, leurs maisons et leurs emplois. Les Katangais en hériteront, parfois sans consentement des propriétaires. Le mouvement se généralise dans toutes les grandes localités du Katanga, Kikasi, Kovusi, Luena, Fugurume, Kamina. De leur côté, les Kassaïens refoulés échouent dans les deux provinces qu'ils connaissent peu, dans des conditions humanitaires très difficiles et avec peu de perspectives pour se réinstaller. Pas d'emploi, pas de terre, des centres urbains très vite surpeuplés. Il faudra attendre l'avènement de Laurent Désiré Kabila en 1997 pour que nombreux Kassaïens reviennent au Katanga. Beaucoup ont récupéré leurs maisons lorsqu'elles n'étaient pas détruites. Mais aucun n'a reçu d'indemnité de leurs employeurs, pas de décompte final ou de compensation pour la perte de leurs biens. Aucune procédure judiciaire nationale ou internationale n'a été ouverte. Les ressortissants du Kassai interrogés affirment que là où il y a eu tentative d'expropriation, l'intervention du chef de quartier ou du bourgmestre de commune a suffi pour récupérer sa propriété. On évite peut-être de remuer les couteaux dans la plaie.
Alors, Nicole, où en sommes-nous après 15 ans?
Un groupe JR est déjà parti, mais un autre traîne encore les pieds. Vous l'avez certainement suivi à travers le point que vient de nous faire Donald Chimboge. Il faut préciser que la communauté kassaïenne qui a échoué dans les deux Kassaï, imagine-t-elle regagner un jour le Katanga? Je pense que le bilan est bon, le Tumba est mieux placé que nous pour répondre à cette question suivante.
En résumé, 15 ans après le versement des Kassaïens de la province du Katanga vers les deux Kassaï, les plaies semblent déjà se cicatriser. La communauté kassaïenne en provenance du Katanga réaffirme que la cohabitation avec les Katangais est inévitable d'une manière générale. Cependant, les avis demeurent partagés quant au retour dans la province du Katanga, comme en témoignent quelques-uns.
Probablement oui, malgré la politique qui défend toujours les êtres humains, parce qu'ici nous avons encore des Katangais, nous sommes en train de collaborer avec eux. Pour vivre, on peut vivre, mais pour dire que ça n'en finit pas ça. J'avais un mauvais souvenir à partir à l'écoulement.
Personnellement, non. Si au moins, pour forcer par vos points, tu ne développes pas les bandes.
Ces avis sont corroborés par l'analyse du professeur docteur en histoire, Dieudonné Mbaye Chakani, et président du CEISA, Centre de recherche en histoire des sociétés africaines.
Nous pouvons dire oui et non. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui continuent à se débattre. Ils sont dans la communauté, personne ne les stigmatise. Et donc, nous pensons que l'intégration à un certain point est réussie. Mais il ne faut pas perdre de vue que nous avons dans la vie chacun sa vitesse. Il y en a qui sont plus aptes au changement brut qu'on a connu dans son expérience et il y en a qui sont très lents. Il y a aussi une certaine opinion qui estime qu'ils ne veulent pas s'intégrer parce qu'entre eux, ils ne parlent qu'en swahili et puis ils constituent une espèce de caste qui se donne des avantages au détriment de ceux qui ont été trouvés sur place. C'est une opinion qui n'est pas très majoritaire, donc il y a une relative intégration.
D'autre part, Mbaye Chakani affirme que la cohabitation des deux populations demeure naturelle et obligatoire.
Pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, c'est la première fois que vous avez l'occasion de suivre cette émission. Désormais, il faut retenir que chaque jeudi, nous aborderons un problème réel avec la Benevolentia, qui est une ONG internationale. On aura une série d'émissions qui vont vous expliquer les origines des violences ethniques en RDC. Ces émissions nous diront aussi comment les Congolais, notamment les leaders ou citoyens ordinaires, s'arrangent pour prévenir les conflits et les traumatismes qui en découlent. Tout à l'heure, nous allons faire le point là-dessus avec notre invité, Patrick de la Benevolentia. Pour l'instant, nous évoluons. Nous avons suivi tout à l'heure Bilan Yvan de Tomba, qui nous a fait le point à partir de Lubumbashi, donc Bujimai, pour ce problème ethnique au Katanga. Alors, nous retenons une chose, c'est que des Kassaïens refoulés il y a 15 ans sont revenus au Katanga et des signes de réconciliation via Lungumbo existent au cas de l'Ikasi.
Oui, Bilan Yvan a rencontré les deux communautés autour d'un symbole de cohabitation, on peut le suivre.
Merci de la paix ou merci à Mali, c'est le nouveau nom du grand marché de la cité de Likasi, anciennement marché central de Kikula. Ce nom est inscrit à l'entrée principale du marché. L'intérieur grouille de monde. Les vendeurs sont regroupés en sections. Articles de luxe, mitraille, friperies, légumes, poissons et des restaurants. Chacun est occupé à écouler ses marchandises. Impossible de savoir qui est qui, car tout le monde s'exprime en swahili. Nous passons de stand en stand. L'animateur du marché nous guide. Témoignage.
Depuis que les autres ont quitté le marché Marlingo vers le marché de Chikula, on cohabite, il n'y a pas de problème. Tout le monde achète et tout le monde vend.
Nous avons tout bien,
positif de cette réunification.
Alors, nous tous, nous avons souhaité à ces conflits un vrai ensemble. Effectivement, le marché a une viabilité très rentable. Parce qu'il y a beaucoup de gens, très beaucoup. Tout le monde vient au marché au lieu d'aller en ville.
C'est à l'ancien maire Petit Kapangé que nos interlocuteurs attribuent cette initiative de réconciliation entre Kassaï et Katangé dans la ville de Likasi. Une initiative méconnue qui a souffert de manque de médiatisation. Très peu d'habitants d'autres villes du Katanga sont aujourd'hui informés que marché de la paix est la nouvelle appellation du marché central de Kikuma. L'histoire rappelle que c'est au cœur de cette commune que les affrontements entre les deux communautés avaient fait plus de morts dans la ville montagneuse.
Selon certains observateurs, cette situation a causé également la détérioration du tissu économique à Bimpala, professeur à l'université de Lubumbashi.
Quand les vins mangent, et les autres regardent, ainsi naît la révolution. Les deux sont intimement liés. Quand d'une part, nous voyons que d'un autre côté, il y a la détérioration du tissu économique ou social, et que de l'autre côté, il y a ceux qui détériorent cette situation et qui s'enrichissent. Alors, à ce moment-là, la violence va naître. La détérioration en elle-même est une violence. Parce qu'à ce moment-là, vous privez une catégorie de personnes d'être des vrais hommes. Alors, ne soyez pas surpris qu'un jour, que les gens qui se sentent lésés dans ces situations puissent s'en prendre à ceux qu'ils croient être des fauteurs de troubles ou qu'ils croient être les profiteurs de cette détérioration.
Par ailleurs, le professeur Donatien Poulou, professeur également à l'UNILU, il parle des actes de réconciliation opposés.
Il y a eu des actes concrets qui ont été posés sur le terrain. Nous pouvons régler notamment la rencontre des trois gouverneurs qui s'étaient embrassés à la télévision à Kinshasa. Le gouverneur du Katanga, M. Kyungu, et les deux gouverneurs des deux provinces du Kasaï, orientales et occidentales. Et puis nous avons eu le pardon que M. Kyungu avait demandé la consultation nationale à Kinshasa en mars 2000. Et puis il y a l'association des faiseurs de la paix, ONG, de l'ICATI, qui a pu faire disparaître le marché des Kassaïens dans la ville, et puis qui a fait du marché de Kikula le marché de la paix, parce que les Kassaïens et les Katangais se sont réunis. Et puis il y a un fait qu'on ne peut pas négliger, c'est la solidarité katangaise, ONG qui a regroupé en son sein et Kassaïens et Katangais ensemble, qui ont contribué donc à la solidification des rapports entre les deux communautés, j'ai dit, antagonistes. Enfin, le dernier acte en date, c'est la réconciliation qui a eu lieu chez M. Kyungu pendant la campagne d'élection présidentielle qui a eu des Kassaïens. Chez lui, il y a eu cette réconciliation.
Voilà, alors pour conclure, J.R., il est bon de rappeler à nos auditeurs que pour cette première émission avec ONG Benevolentia, que vous aurez l'occasion de suivre chaque jeudi, hein, parce que ce n'est qu'une première émission avec eux. Nous abordons aujourd'hui un premier problème, nous parlons du conflit ethnique au Katanga, les origines du conflit ethnique au Katanga, et nous invitons tous ceux qui nous suivent à réagir déjà avec leurs questions, hein, au 081 070 2050, comme un spécialiste qui est bien placé pour répondre à toutes vos questions. Patrick de Benevolentia est déjà là dans ce studio. Alors, on conclut parce qu'il est bon de faire quand même le point après avoir suivi les différents témoins, hein, que nous venons d'écouter. Ce reportage démontre que deux groupes de citoyens ordinaires du Katanga sont entrés dans un cycle de violence infernale et très douloureux pour les deux groupes, car les deux ont connu beaucoup de pertes. Ce reportage montre aussi bien que les deux groupes vivaient et partageaient des difficultés quotidiennes, mais un groupe s'est laissé manipuler pour se débarrasser de l'autre groupe, car Kwaton disait que c'était ce groupe qui créait les problèmes. Et en réalité, l'autre groupe n'était pas la cause des problèmes. Les gens ordinaires, GR, du Katanga, ne sont pas responsables des problèmes quotidiens.
En fait, Nicole, l'histoire récente du Katanga démontre bien que le fait de diviser les gens, le fait d'accuser les groupes de tous les problèmes, la manipulation, les discours qui divisent, rien de tout cela ne permet d'améliorer la vie des populations. Au contraire, tous ces éléments mènent à la violence et à la haine. Le reportage montre également que la vengeance n'a pas eu lieu entre les groupes. Cela est encourageant. En effet, encore plus de violence n'aurait pas permis de remédier aux problèmes de base des Katangais. Au contraire, la vengeance aurait transformé les auteurs de cette vengeance en malfaiteurs.
En effet, hein, tout ceci pour vous dire que la violence ne résout aucun problème. Au contraire, il est très important de comprendre pourquoi les Katangais ont sombré dans la violence. À l'avenir, si tous les habitants du Katanga comprenaient cela, alors ils résisteront, hein, ils s'opposeront mieux à la violence, car ils sauront que celle-ci ne fera qu'aggraver leur vie de tous les jours. Avec nous, dans ce studio, nous l'avons dit, il y a Patrick de la Benevolentia. Pendant le temps, nous allons le retrouver, hein, afin qu'il réponde à vos questions. Donc, réagissez déjà au 081 070 2050.
I'm going to go to the hospital. Thank you.
Tiré de l'album Noblesse Oblige, Petite Sœur, hein, c'est le titre de la chanson de Alain Gendel.
Oui, Nicole, nous sommes là en début des années 90, les bons souvenirs de la caption du quartier latin international avec Sam Kitu, Modogo et Suzuki, et je n'oublie pas Babian Donga, que Kofi Olomide a appelé affectueusement dans la Schengen.
Oui, on va reculer encore, car vous savez que peu avant, c'est-à-dire au début des années 90, alors, on consiste, si vous voulez, dans le Katanga connu une période sombre, hein, vous savez, et selon les sources, entre 200 000 et 400 000 Congolais d'origine kassaïenne ont dû quitter la province en abandonnant tous leurs biens pour regagner le Kassaï oriental et le Kassaï occidental. Aujourd'hui, comment expliquer que deux communautés qui cohabitaient depuis des dizaines d'années en viennent à de telles extrémités? Ces communautés peuvent-elles vivre ensemble 10 ans plus tard? Et quels sont les signes de réconciliation avec la Benevolentia, qui est une ONG internationale? On va sans doute trouver des réponses, puisque Patrick de l'ONG Benevolentia est là justement pour nous donner des explications. Alors, Patrick, pour commencer, bon nombre de gens vous découvrent pour la première fois, puisque ça, c'est une première émission que nous faisons avec vous, hein, le jeudi, les amis, chaque jeudi, ce sera comme ça. Parlez-nous un peu de la Benevolentia. Que veut dire exactement la Benevolentia?
Bonjour, merci pour la question. L'ONG Benevolentia, la Benevolentia, ça veut dire la bienveillance ou la bonne volonté. En serbo-croate, yougoslave. Cette ONG est née à partir du conflit yougoslave, justement, où c'était un conflit de groupe, un conflit violent, dans lequel il y a eu une épuration ethnique, des Serbes et des Croates. Et partant de ces faits, des gens se sont mis ensemble pour essayer de trouver des solutions aux conflits violents. Ils ont créé cette ONG en Europe, à Notre-Dame, et ils ont cherché, grâce à la science, des moyens pour résoudre le conflit violent à travers le monde. Donc, la psychologie, qui est la science qui essaie de comprendre les comportements des individus, va faire des recherches. Nous avons travaillé notamment avec Erwin Staub, professeur, et Lori-Ann Perlman, qui est aussi professeur dans le domaine de la psychologie.
Mmh.
Et ils ont pu découvrir que...
Ils évoluent où exactement, ces deux professeurs?
Aux États-Unis. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, les connexions, les avions, le développement technologique, nous sommes toujours en contact. Il n'y a pas de problème. La distance n'est pas un problème dans notre travail.
Aujourd'hui, nous parlons du conflit ethnique au Katanga, hein, conflit qui s'est déroulé dans les années 90. Hein. Alors, sur quoi se base la Benevolentia pour dire que les conflits au Congo, au Soudan, les conflits de masse en Yougoslavie ont des origines similaires?
Oui, justement, c'est ce que je disais, sur des recherches scientifiques dans le domaine de la psychologie.
Mais sur quoi exactement?
Ben, nous avons observé, à travers différents conflits dans le monde, les chercheurs, les psychologues ont dégagé des règles scientifiques qui disent qu'il y a, il y a des étapes universelles de la violence. Après avoir analysé le conflit de l'Allemagne nazie, le conflit des Khmer Rouges, le conflit en Turquie avec l'épuration ethnique des Arméniens, le conflit au Rwanda, le conflit au Congo, le conflit en Argentine aussi, dans les années 80, et nous avons observé qu'à travers tous ces conflits, effectivement, c'est les mêmes origines. Le conflit naît deux mêmes facteurs, les mêmes causes.
Alors, comment peut-on dire que les origines des conflits de Mars sont similaires, hein? C'est ça aussi pour bon nombre d'arrivants à comprendre.
Ben, c'est pourtant facile à comprendre, parce que lorsqu'on observe les conflits, on remarque les conflits violents, les conflits de masse, les conflits de groupe. On observe que ces conflits naissent à partir des conditions de vie difficiles ou à la base des conflits de groupe, comme le cas du Katanga.
Oui.
C'est parti d'un conflit entre les Katayens et les Katangais.
Les conflits au Katanga, vous savez que chaque tribu, chaque ethnie, hein, chaque province a ses réalités. Alors comment notre des ressemblances, comment arriver à mettre des parallélismes alors que chaque peuple a sa culture.
C'est justement là le miracle de la psychologie, si je peux me permettre, c'est que nous avons découvert des lois qui s'appliquent de manière universelle. Indépendamment de notre appartenance culturelle, la violence est un phénomène social analysé à travers la psychologie. Et dans notre cas ici, on observe que des conditions de vie difficiles, qu'on soit kassaïen, katangais, qu'on soit allemand, ou yougoslave, ou serbe, que sais-je, c'est des conditions de vie difficiles. Ces conditions de vie difficiles, comme nous avons vu dans le reportage, ça pète la détérioration du tissu économique.
Alors comment peut-on trouver des solutions? Parce qu'avec vous, hein, la bénévolence, nous sommes là pour trouver des solutions afin que ces choses ne se répètent plus à l'avenir. Nous parlons aujourd'hui du conflit au Katanga, vous avez suivi le reportage de Dana Chiloge, le complément d'information qui a été fait par Emmanuel Lamégi et bien d'autres personnes qui ont eu à témoigner. Et là, comment on peut expliquer un peu tous ces conflits, notamment le conflit du Katanga?
Mais justement, je suis content de cette allusion au reportage du conflit katangais. Et là, nous pouvons remarquer que beaucoup de nos intervenants ont parlé de conditions de vie difficiles. C'est-à-dire, ça peut être la confusion politique, ça peut être la détérioration du tissu économique, ça peut être des changements sociétaires profonds et rapides. Et dans le cas du Katanga, on a des conditions de vie difficiles qui est un facteur qui prime. La gécamine va mal, il y a beaucoup de chômage. Là, on a déjà l'ingrédient de la violence. L'origine de la violence au Katanga, c'est d'abord dire qu'on vit dans des conditions de pauvreté. Je pense qu'il est important que la population congolaise, que nous sachions que la violence est évitable. Et il y a des origines à cette violence de groupe. Et c'est le rôle de nous, chacun, chaque citoyen, de prendre conscience que la violence est évitable. Et comment nous pouvons l'éviter? En connaissant les origines qui nous mènent à cette violence.
Et puis même, si on connaît les origines, finalement, qu'est-ce qu'on va faire?
Merci beaucoup. On devient des acteurs de la prévention des conflits. Une fois qu'on connaît les origines des conflits, on peut devenir un acteur qui va prévenir le conflit. Notamment en résolvant le problème de chômage. Si aujourd'hui le problème de pauvreté se pose au Congo, il ne faut pas accuser tel époux ou tel autre, parce que on ne traite pas la question en accusant un époux. Le problème est économique et se règle selon des règles économiques.
Vous avez bon nombre d'auditeurs qui nous suivent, hein, Patrick, qui se disent, bon, ils nous parlent de régime des conflits, ils nous disent qu'on doit devenir des leaders. Bon, c'est la notion, hein, finalement, quel est le rôle que nous pouvons jouer, puisque bon, c'est ça aussi le grand problème.
Permettez-moi de vous corriger, là, je n'ai pas dit leader, j'ai dit acteur. Il y a toute une différence. Nous sommes dans un système que nous appelons un système démocratique. Nous sommes libres d'expression et nous pouvons connaître donc à travers les médias quels sont les facteurs qui nous mènent au conflit, les origines des conflits de groupe.
Vous avez cité notamment la pauvreté.
Oui, mais il y en a encore d'autres. J'ai cité aussi la confusion politique. Je peux citer aussi l'absence d'État. Je peux citer le chômage. Je peux citer des conditions de santé difficiles. Je peux citer l'absence d'éducation.
Les problèmes sociaux. Hein,
vraiment, oui, les problèmes sociaux qui vont entraîner des frustrations au sein de la population. On se sent abandonné. Nous nous sentons abandonnés parce que nous ne pouvons pas résoudre nos besoins existentiels de base, qui sont se nourrir, se loger, se vêtir, par exemple. Et lorsque nous n'arrivons pas à satisfaire ces besoins de base, nous allons donc produire des réactions, des attitudes et des comportements qui vont changer. On va se sentir abandonné, frustré, angoissé.
Et ça, ce sont aussi des traumatismes.
Qui nous amènent à différents types de comportements, notamment un comportement violent.
Voilà, exactement. Et à travers nos émissions, nous voulons montrer que ces violences de groupe, ces violences de masse, nous, Congolais, nous ne sommes pas condamnés à vivre éternellement dans cette violence. Et nous avons des recherches en psychologie qui démontrent, après observation de différents conflits de groupe, que nous pouvons nous en sortir de ces conflits de groupe lorsque nous connaissons les origines de ce conflit de groupe. Et ces origines sont pour l'essentiel matériel. Ça n'a rien à voir avec notre identité culturelle ou notre appartenance ethnique.
On va évoluer.
Le même conflit de groupe se retrouve dans les quatre continents.
On va évoluer, mais d'abord, j'aimerais donner la parole à Jérôme Limbaud.
Oui, mais Patrick, disons, c'était curieux. Vous partez, disons, d'une expérience particulière, pour généraliser. Quand j'ai dit particulière, ça dit partant de l'expérience de la Yougoslavie. Et vous avez eu à évoquer également le Soudan, pour en faire peut-être un cas général. Avec la réalité, Nicole l'a souligné, il y a chaque peuple a sa culture, chaque peuple a ses réalités, et je crois qu'à un certain niveau, il y a même des peuples qui, naturellement, n'aiment pas vivre avec les autres. Alors, je pense, pour arriver à éradiquer les telles histoires, vous ne pensez pas que la bénévolence racontera énormément de difficultés pour des telles personnes naturellement invivables, naturellement difficiles à cohabiter.
Merci pour la question, ça me permet de rappeler que c'est une question qui touche toute l'humanité. Ça ne touche pas que la bénévolentia. Ce n'est pas la bénévolentia qui va venir ici vous donner un discours. La bénévolentia se réfère à des recherches en psychologie, donc des recherches qui sont universelles, qui sont partagées par toutes les universités du monde.
Depuis quand vous êtes en RDC?
La question, depuis quand je suis en RDC, je pourrais répondre depuis 2003, mais je suis en RDC tout, chaque année.
2003,
chaque année, je suis là, tout ça établi.
4 ans plus tard, vous avez fait des recherches. Quels sont les vrais problèmes? Parce que récemment, là, je venais de Bonobo, et nous avons trouvé qu'il n'y a pas que la pauvreté, mais il y a un autre problème qui est à la base, d'ailleurs, de conflits entre des peuples, le Nounou et le Tendé, par exemple.
Merci beaucoup. Justement, et là, vous donnez un exemple très concret de nos recherches. On dit justement que le conflit n'est pas ethnique, ce n'est pas le fait d'appartenir à une ethnie ou une autre qui va nous amener à résoudre les problèmes de société que nous connaissons. Le Congo, comme tous les pays que vous avez cités, que j'ai cités, qui ont connu des violences de groupe, ont partagé des étapes universelles de la violence. C'est ce continuum, ce cycle de la violence, que nous voulons vulgariser, puisque lorsque nous saurons qu'à travers chaque étape, c'est une cause de conflit, nous allons essayer de prévenir.
On l'a compris, mais oui. Aujourd'hui vous voulez vulgariser, ne pensez-vous pas que vous êtes en train de réveiller les chéris d'or? Parce que pour les cas par exemple du Katanga, les gens avaient peut-être perdu de vue, les gens n'en parlent plus. Donc aujourd'hui, bénévolat, c'est là, directement. Et puis c'est comme si les gens se réveillaient brutalement, brusquement.
Le cas du Katanga est un exemple parmi tant d'autres.
D'abord, parce qu'il y a eu déjà des réconciliations.
Oui, mais je vous répète, nous sommes encore en train de dire que le cas du Katanga est un cas comme tant d'autres. Le problème du Katanga, ce n'est pas les Kassaïens ou les Katangais. C'est un problème général de pauvreté qui touche tous les Congolais. On peut parler du Bas-Congo, on peut parler du Bandundu, on peut parler de l'Équateur, on peut parler du Kassai, on peut parler du Kivu. Mais cette violence s'exprime différemment selon les lieux. Mais les causes de ces violences au groupe sont les mêmes. Et c'est ça qu'on essaye de déveiller la conscience des Congolais.
Mon problème, plus on rappelle quelqu'un à un événement passé, plus on les met encore en insécurité. C'est ça mon problème. Les rappels en psychologie, comme vous l'avez dit, vous avez fait des recherches. En psychologie, on sait que quelqu'un à qui on rappelle des mauvais souvenirs, des mauvais événements, risque de.
Merci beaucoup. Ça me permet de anticiper sur le rôle de la mémoire dans une société. Je pense que nous devons être conscients du rôle important de la mémoire pour construire notre société que nous voulons démocratique.
Oui.
Ce n'est pas en niant notre traumatisme que nous allons guérir du traumatisme. Nous sommes Congolais, nous sommes victimes de la violence. Nous sommes donc traumatisés. Et nous devons pouvoir, nous devons partager ces épreuves à travers le dialogue, à travers le partage dans un groupe, de notre traumatisme. Ça nous permet de le libérer.
Mais le problème, c'est qu'on peut également se
libérer
en exprimant cela à travers la violence. C'est ça aussi le grand danger.
C'est arrivé. Le danger est que nous sommes traumatisés. Et effectivement, c'est un danger parce que le traumatisme, c'est des comportements d'abus d'alcool, d'abus de drogue, d'insomnie, de dérèglements d'appétit, c'est des problèmes de violence autodéfensive. Mais on ne règle pas un problème en réglant ses effets. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça, ce sont les effets de la violence de groupe. Donc, si nous voulons résoudre le problème de violence de groupe, nous devons retourner aux origines.
Alors, quelle est la contribution de la bénévolentia, concrètement?
C'est une contribution sociale, si je peux m'exprimer.
Alors, vous voulez dire aux gens, vous ne réglez pas le problème de conflit à travers la violence, mais faites plutôt ceci. Quoi?
Connaître d'abord les origines de la violence pour être des acteurs de la prévention de la violence.
Oui, ils sont conscients des
acteurs. Savoir que nous sommes traumatisés et devoir guérir du traumatisme à travers des procédés tels que la justice. La justice est un élément clé pour guérir du traumatisme. À travers une méthode riche qui a été développée, qui veut dire recherche, respect, information, connexion et espoir, à travers d'autres méthodes que nous aurons l'occasion de développer ici ensemble. Oui. On apporte des solutions concrètes pour guérir du traumatisme.
Vous avez cité la justice.
Sortir de la violence à travers la justice.
Voilà, vous avez cité la justice. Il y a un auditeur justement qui réagit en fonction de cela. Il s'appelle Fidèle Kadeboué depuis Kananga. Fidèle nous dit « Certains Castaïens n'ont jamais récupéré leur maison abandonnée jusqu'ici. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ?»
Déjà, en tant que citoyen congolais, c'est peut-être interpeller l'autorité responsable. Mais on nous dit souvent que nous sommes en démocratie. Et la démocratie vit avec les acteurs qui sont les citoyens. Si nous-mêmes ne demandons pas justice, personne ne va la faire. Nous avons des représentants, nous avons des autorités politiques qui sont là pour ça.
Est-ce que Fidèle Kadeboué peut seul interpeller l'autorité responsable?
Peut-être pas seul. Il y a des associations, il y a des groupes. Par exemple, je vais donner le cas d'un conflit d'entreprise. Lorsque le patron est en conflit avec un des employés, il ne va pas revendiquer tout seul, peut-être son cas est général. Donc il va rentrer dans une association qu'on appelle un syndicat. Et à travers le syndicat, il va revendiquer de manière organisée ce dont il a besoin. C'est-à-dire que Patrick, vous êtes d'accord. Et dans le cas ici de notre intervenant, il a besoin de justice. La justice, c'est l'État qui la met en place. Et qui représente l'État? C'est nos députés, nos ministres, notre chef de l'État. Donc, nous avons un système qui nous permet d'interpeller nos mandataires.
Oui, mais pour
donc,
le cas...
Le monsieur, c'est très précis, notre ami, il suffit qu'il aille trouver l'autorité compétente pour régler les conflits de biens qui opposent effectivement entre ceux qui ont occupé de manière illégale de fait sa résidence, et dans laquelle il voudrait se voir réintégré. Donc il doit exiger son droit de propriété. Et son droit de propriété se fait au niveau des tribunaux et des cours.
Parlons justement du conflit katangais,
la violence ne réglera rien.
Qui s'est déroulé dans les années 90, aujourd'hui il y a bon nombre de gens, puisque vous avez réveillé le passé, il y a bon nombre de gens qui réagissent justement en fonction de cela. Il y a Sylvain depuis Kananga qui dit le promoteur de ce conflit est connu, mais il n'a jamais été inquiété. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez dire, cet auditeur?
Oui, notre ami,
c'est parce que vous avez des origines.
Oui, les origines, oui, bon, c'est la pauvreté, les d'autres problèmes, mais quand disons, l'instigateur est connu, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Là, la question de notre ami revient sur le domaine de la justice. Effectivement, dans toute société démocratique, il y a des lois, il y a des règles, il y a des institutions qui sont là, mises en place, pour appliquer la loi. Et qu'on soit en Équateur ou dans le Bas-Congo, le droit de propriété s'exige de la même manière. Donc on revient sur la question de la justice pour guérir du traumatisme, de la justice pour guérir de nos blessures.
Le problème qui est là, c'est que bon nombre ne sont pas conscients de la justice. C'est ça aussi le problème, Patrick. Nous revenons avec vous dans un instant. I was waiting for so long for a miracle to come. Aujourd'hui, hein, Patrick de la Benevolentia, afin de parler des problèmes de conscience souvent hein, qui existent dans le pays. Vous savez qu'il est toujours bon de régler ces problèmes de façon pacifique, mais comment les régler concrètement? Patrick de la Benevolentia est là pour dire concrètement ce qu'il faut faire. Tout à l'heure, Patrick, vous avez relevé la justice comme étant un moyen de résoudre un problème de conflit.
Oui, bien sûr, mais je voudrais, avant d'aborder plus particulièrement le thème de la justice, rappeler ces étapes universelles de la violence. Nous avons parlé de conflit de groupe, qui est une première étape qui peut nous amener à la violence. Le conflit de groupe entre, par exemple, Katangais et Tafaïr. Deux, nous avons les conditions de vie difficiles. Ces conditions de vie difficiles, c'est un, la confusion politique. Deux, la détérioration économique du tissu. Trois, la détérioration du tissu social aussi, un changement sociétaire important. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas? Il y a formation de groupe, qui est aussi la formation de groupe identitaire, une étape, de ce processus de violence. Les groupes qui sont formés sur des bases identitaires et exclusives, en rejetant donc, par définition, les autres.
C'est difficile de régler un problème complexe de société lorsque vous le déterminez seul un groupe ethnique identitaire exclusif, ça va apporter une solution à l'ensemble des autres sans intégrer les autres, sans les inclure. C'est déjà la façon de voir les choses est dangereuse et la manière de régler le problème aussi.
Mais je sais qu'il faut inclure les autres. On a beaucoup, beaucoup de questions.
C'est aussi important de connaître ces étapes universelles de la violence parce que sinon, ça ne sert pas de grand chose.
Oui.
Donc, ceci dit, il y a aussi le discours du bouc émissaire. Le fait d'accuser l'autre, c'est une étape universelle. On voit ça dans tous les conflits de masse.
Mmh.
On accuse un groupe responsable de tous les problèmes. Ensuite, il y a aussi le discours, je veux dire, négationniste. On dit plus simplement un discours de haine. On nie l'existence de l'autre. On refuse qu'il puisse même apporter une solution politique ou sociale à l'autre.
On aura une
le témoin passif. C'est aussi une cause du conflit. Le fait que nous ne disons rien face aux inégalités. C'est important que nos auditeurs sachent qu'il y a plusieurs étapes qui nous mènent à la violence de groupe, mais qu'ils connaissent quelles sont les étapes.
Parce que nous allons bientôt donner la parole à Jacques Carora pour la conclusion de cette première émission avec vous, le conflit ethnique au Katanga. Quel sera le sort réservé aux auteurs de ces événements du Katanga? Il y a eu des pertes en vie humaine, nous dit Xavier Goma. Il n'y a pas seulement au Katanga, même chez nous, dans le Sankourou, il y a une menace de cohabitation. Au Sankourou, nous dit un auditeur, que faire pour ne pas vivre les problèmes des autres? Ça, c'est Georges Ndjongolongo qui nous le dit. Après réconciliation de deux communautés, quel conseil donnez-vous à ceux qui cherchent la domination? Nous dit Didier depuis Yaro. Nous avons également une question qui nous vient de la province orientale. Benjamin de Bibéni qui dit, il demande à ce que cette ONG, vous, de la bénévolenté, que vous puissiez faire extension à Bounia, c'est-à-dire en province orientale. Donc il y a plusieurs questions qui nous arrivent de partout. Patrick, juste un petit mot avant de se séparer pour donner la parole à Jack Carora.
Oui, un petit mot pour de conclusion. Je dirais que il est important d'éduquer la population, pas seulement la population, mais aussi nos leaders politiques, communautaires ou militaires, sur la tolérance, à développer des attitudes de tolérance, de compassion à l'égard des diverses communautés du Congo, en vue de tempérer les tensions en RDC. Il est important aussi d'éduquer nos enfants d'une manière inclusive, pas d'une manière où on va rejeter l'autre pour sa différence. Nos différences sont nos richesses.
Vous avez le temps de revenir sur ça, j'ai le prochain, puisque je serai également dans ce site de Patrick, afin d'aborder avec nous notre problème de conflit, toujours en RDC. Nous donnons la parole à Jack Carora, afin qu'il puisse conclure sur cette question concernant le conflit et qu'on puisse attendre à ce sujet. Il est justement en ligne, Jacques Carora, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur cette question concernant le conflit ethnique, conflit qui a eu à se dérouler dans le Katanga dans les années 90?
Oui, bonjour Nicole, bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi, Okapi Action. Disons qu'un conflit entre deux ou plusieurs groupes peut être causé par des problèmes matériels ou des problèmes d'ordre mental. Par exemple, les conflits fonctionnels ou les conflits liés à la nationalité, la pauvreté, la faim, l'insécurité de tous les jours. Tout cela finit par se transformer en problèmes mentaux, comme par exemple la frustration, le sentiment d'être plus faible ou différent que les autres groupes, le sentiment d'être exposé à toutes les menaces du monde, d'avoir perdu sa dignité d'homme. Ces sentiments sont très déplaisants et très pressants pour nous tous. Nous voulons nous en débarrasser coûte que coûte. Nous avons suivi au cours de cette émission comment la ressource n'était pas équitablement répartie au Katanga. Certains avaient plus accès à un travail rémunérateur, tandis que d'autres n'en avaient pas. Les besoins matériels se transformaient en besoins psychologiques, c'est-à-dire que certains étaient frustrés de leur situation car ils n'étaient pas reconnus au même titre que les autres. Alors ils se sentaient en insécurité, ils étaient angoissés. Or, les gens ordinaires de cette région n'étaient pas responsables de ces inégalités, mais ils s'en sont quand même devenus des victimes. Les groupes du Katanga n'ont pas hésité à s'attaquer à leurs compatriotes lorsque un mot d'ordre est venu de leur leader politique. Dans leur discours, ces leaders ont montré qu'en chassant un groupe de la place, le train de vie des autres s'améliorerait.
Alors, rapidement, parce qu'il ne faut pas être précis, quels sont les conseils que vous pouvez donner à l'avenir pour mieux comprendre et gérer ces problèmes de conflit?
Oui, nous devons dire voilà justement quelques petits conseils. Nous devons tous tenter de nous demander si c'est ce que commis les leaders politiques, religieux ou les mamies permettra d'améliorer la situation de tous les Congolais et pas de notre groupe seulement. Tous les citoyens congolais, même les leaders, devraient essayer de proposer des solutions qui sont bonnes pour que chaque individu, mais aussi pour tous les membres de la société et tous les groupes.
Merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir sur un autre problème, et ce sont toujours les mêmes conseils, puisque vous l'avez dit, les causes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce problème, le profit prochainement, jeudi prochain, j'ai un nombre.
Oui, tout à l'heure, c'est bien. Nous avons fait le tour de Kisangani, Bandundu, Mujimai, et nous avons été au Katanga pour le point de chute.
Voilà, Patrick, merci d'avoir été des nôtres.
Merci à vous.
Jeudi prochain.